Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Au commencement était le verbe. Ensuite vint l'orthographe. Bernard Frippia propose un essai de vulgarisation consacré à la formation mouvementée de la langue française et de son système graphique. Historien de formation, animateur de stages consacrés à la langue et praticien de la scène, il adopte un ton humoristique afin de réduire la crainte souvent associée aux règles, aux exceptions et aux erreurs. Le livre ne se présente pas comme un manuel scolaire ordonné autour de listes à retenir. Il avance plutôt par une série de questions et réponses qui relient des difficultés très concrètes aux circonstances historiques ayant façonné le français. Origine multiple de la langue, poids durable du latin, transformation des mots et irrégularité verbale y sont abordés dans une perspective accessible. Son objectif central consiste à désacraliser une orthographe fréquemment vécue comme arbitraire, en montrant que ces anomalies résultent de strates culturelles. Politique et savante, Frippias invite le lecteur à remplacer la culpabilité par la compréhension, sans prétendre effacer la complexité réelle du français. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, faire de la difficulté orthographique un objet historique plutôt qu'une faute personnelle. Le point de départ du livre est une inversion utile du regard porté sur les erreurs, au lieu de traiter chaque difficulté comme un manque individuel de rigueur ou de mémoire. Bernard Frippia rappelle que la graphie française est le produit de siècles de transformation. Les règles obscures et les exceptions ne forment donc pas un ensemble conçu d'un seul tenant selon une logique parfaite. Elles portent la trace de changements de prononciation, de traditions écrites, de choix savants et de contacts entre langues. Cette perspective ne dispense pas de vérifier un accord ou de distinguer des homophones, mais elle modifie la manière de les aborder. Comprendre qu'une irrégularité possède une histoire permet de la sortir du registre de la honte. Le livre vise ainsi les lecteurs qui ont intériorisé une relation anxieuse à la dictée, au courrier professionnel ou à la correction scolaire. Sa démarche est particulièrement pertinente parce que la maîtrise de la langue est souvent jugée socialement, alors que ses normes sont historiquement composites. Frippia ne présente pas la complexité comme imaginaire ni comme entièrement injustifiée. Il cherche plutôt à en expliquer les causes afin de rendre les règles moins opaques. La connaissance historique devient alors un appui pour observer les formes, retenir certains usages et relativiser le prestige intimidant attaché à une orthographe réputée difficile. Deuxièmement, la forme question-réponse privilégie les obstacles réellement rencontrés par les lecteurs. L'organisation en nombreuses questions et réponses constitue un choix pédagogique central. Plutôt que de dérouler une histoire continue de la langue, le livre part de curiosités ou de blocages reconnaissables. Cette structure convient à un sujet dont les difficultés surgissent souvent de manière ponctuelle, une graphie surprenante, un verbe irrégulier, une règle dont le fondement paraît absent. Chaque entrée peut ainsi offrir une explication ciblée, puis replacer le phénomène dans une histoire plus large. Les sources de présentation évoquent une centaine de questions et parfois près de 150 selon les éditions ou descriptions. Cette variation importe moins que le principe, la fragmentation rend possible une lecture discontinue, adaptée à la consultation comme à la découverte. Elle évite aussi de réduire le livre à un récit académique de linguistique historique. Le lecteur est invité à suivre des problèmes précis et à constater que des réponses apparemment simples conduisent souvent vers des héritages complexes. Cette méthode présente toutefois une limite inhérente, elle ne remplace pas une grammaire systématique ni un entraînement progressif. Son apport est ailleurs. Elle stimule la curiosité, donne des repères explicatifs et établit des liens entre détails orthographiques et évolution générale du français. Pour un adulte qui souhaite comprendre avant de mémoriser, ce format est plus accueillant qu'un traité normatif. Troisièmement, les origines plurielles du français expliquent une part de son apparente incohérence. Frippia insiste sur le fait que le français ne provient pas d'une source unique et parfaitement homogène. Les présentations du livre signalent notamment que les origines de la langue sont au nombre de trois, sans transformer cette formule en simplification exhaustive de toute la linguistique historique. Elle sert à combattre une idée répandue, celle selon laquelle chaque mot et chaque règle devraient découler de manière transparente du latin. L'histoire du français comprend des apports et des influences qui ont laissé des traces dans le lexique, les sons et les habitudes de transcription. Cette pluralité aide à comprendre pourquoi une langue peut mêler des régularités fortes à des formes rétives aux classifications immédiates. Le livre rattache donc la question orthographique à une histoire culturelle plus vaste, marquée par les circulations, les héritages et les réinterprétations. Ce déplacement est important pour les lecteurs francophones, il montre que la norme actuelle ne constitue pas une nature immobile de la langue, mais le résultat stabilisé de choix successifs. Une orthographe difficile peut dès lors être regardée comme une archive imparfaite, autant que comme un code à respecter. La valeur pédagogique de ce thème tient à son effet de contexte. Au lieu de mémoriser une exception comme un accident sans raison, le lecteur apprend à y chercher une provenance. Même lorsque cette provenance ne fournit pas une règle immédiatement applicable à tous les cas. Quatrièmement, le latin apparaît comme héritage linguistique mais aussi comme force de prestige. Parmi les repères historiques mobilisés, le latin occupe une place essentielle. Le livre rappelle son importance durable dans la transmission du savoir et dans le prestige culturel, ce qui aide à éclairer certains choix ayant pesé sur la langue écrite. Il ne s'agit pas seulement de dire que le français descend largement du latin. La question est aussi de comprendre comment la référence latine a pu influencer la manière de penser, de valoriser et parfois de remodeler les mots. Cette dimension sociale est décisive, une orthographe ne suit pas exclusivement la prononciation présente, car elle peut également afficher une filiation, préserver une distinction ou répondre à une norme savante. Fripia met ce mécanisme à portée du grand public en refusant le ton de révérence habituellement associé à la culture grammaticale. Le résultat permet de distinguer deux réalités souvent confondues. La langue parlée évolue par les usages, tandis que la langue écrite conserve, sélectionne et organise certains héritages. Cela explique en partie le décalage que ressentent les apprenants entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils doivent écrire. Le thème du latin sert donc moins à fournir une leçon d'étymologie exhaustive qu'à rendre intelligible le rôle de la mémoire culturelle dans les graphies. Il éclaire la persistance de formes qui semblent, au premier regard, disproportionnellement compliquées. En dernier lieu, l'humour sert de médiation pédagogique sans transformer le livre en simple recueil de plaisanteries. La singularité la plus visible de Bernard Fripia réside dans son usage revendiqué de l'humour et de l'irrévérence. Le rire est employé comme un moyen de désamorcer la solennité qui entoure souvent la correction linguistique. Cette stratégie correspond au parcours de son auteur, à la fois historien, chroniqueur et comédien, et à son expérience de formation en orthographe. Dans ce cadre, la plaisanterie n'est pas une décoration ajoutée après coup à un contenu scolaire. Elle aide à maintenir attention et distance critique devant des conventions parfois imposantes. En tournant certaines prétentions normatives en dérision, le livre peut rendre l'étude de la langue moins punitive. Il faut néanmoins situer exactement cette promesse. L'humour ne garantit pas à lui seul la mémorisation, ni ne remplace des exercices pour acquérir des automatismes d'écriture. Des lecteurs peuvent aussi être plus sensibles aux explications historiques qu'aux registres comiques. Mais cette réserve souligne justement la fonction réelle du procédé, ouvrir un accès affectif et intellectuel au sujet. Le livre cherche à faire comprendre pour mieux faire aimer, non à fournir une méthode complète de remédiation. Comparé à un guide de règles, il propose un rapport moins vertical au savoir. Le lecteur est autorisé à s'étonner, à sourire et à questionner les usages avant de mieux les reconnaître. En conclusion, au commencement était le verbe. Ensuite vint l'orthographe, conviendra surtout aux adultes francophones qui souhaitent renouer avec la langue écrite sans reprendre un manuel de grammaire traditionnel. Il peut intéresser les apprenants de français disposant déjà de bonnes bases, les enseignants à la recherche de pistes de contextualisation, ainsi que les lecteurs curieux de linguistique historique sous une forme légère. Son bénéfice pratique est indirect mais réel en donnant une origine certaines étrangetés. Il peut faciliter la mémorisation et réduire le réflexe de découragement devant une exception. Son bénéfice intellectuel est plus net encore. Le lecteur découvre que la norme graphique relève autant de l'histoire que de la logique et que les difficultés du français témoignent de ses héritages multiples. Il ne faut cependant pas attendre un programme exhaustif de remise à niveau avec leçons graduées, batterie de tests et règles classées par fréquence. Le livre se situe entre la chronique culturelle, la vulgarisation historique et la pédagogie de déculpabilisation. C'est précisément ce positionnement qui le distingue des ouvrages de trucs orthographiques ou des grammaires prescriptives. Là où beaucoup de guides demandent avant tout de retenir la bonne forme, Fripia cherche à expliquer pourquoi la question se pose. Son humour de scène et son regard historique donnent une personnalité claire à cette exploration. Pour qui veut comprendre les détours de la langue afin de mieux vivre avec ses exigences, cet essai offre une porte d'entrée vivante, informée et moins intimidante que les approches strictement normatives. Si vous souhaitez soutenir Bernard Fripia, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.